RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui au Kenya. Kibera, longtemps considéré comme le plus grand bidonville d'Afrique, est en pleine transformation. Il s'étend sur plus de 200 hectares, presque la taille du Central Park à New York, et abrite, selon les différentes estimations, entre 170 000 et 250 000 habitants. Il se trouve aujourd'hui à une place stratégique, à Nairobi, coincé entre le centre-ville et les quartiers huppés du sud de la capitale. Bientôt, une route de 5 km de long et de 60 mètres de large devrait couper en deux cette véritable ville dans la ville. Son nom, le Missing Link 12. Son but, décongestionner Nairobi, où les embouteillages sont un problème quotidien. Mais la construction est actuellement bloquée par deux pétitions déposées par les habitants contre le gouvernement. Au cœur du problème, l'installation informelle depuis des dizaines d'années de centaines de milliers d'habitants qui n'ont pas de titre de propriété. La bataille pour la terre de Kibera a commencé. Missing Link 12, une route au milieu du bidonville de Kibera au Kenya. Un grand reportage de Laure Broulard.
Une montagne de sable, des bulldozers qui vont et viennent sur un large terrain vague et sur un mur, un grand graffiti qui accueille les visiteurs. Bienvenue à Kibera. Mohamed Aboubakar est un résident du bidonville. Il est signataire d'une des pétitions contre la construction de la route.
Cette route a démarré ici. Et il y avait un marché. Des gens gagnaient leur vie ici. Mais malheureusement, ils ont été chassés. Pas de compensation, rien.
Les travaux ont débuté en février 2016 aux abords du bidonville. Deux mois plus tôt, des centaines de maisons avaient été marquées à la peinture rouge. Mohamed pointe un bâtiment communautaire. Sur les murs de tôle, on aperçoit trois grandes croix rouges.
Ça, c'est la première croix rouge qui a été faite. C'est le bâtiment d'une organisation de jeunes de la communauté. C'est l'autorité des routes kenyanes, la Kura, qui est responsable de cela. Ils sont venus avec des jeunes qu'ils ont payés et ils ont marqué ces maisons.
Et qu'est-ce qu'ils disaient aux gens ?
Ils disaient qu'ils étaient seulement en train d'indiquer où la route allait passer. Ce jour-là, il y a eu des violences, les gens les ont chassés et finalement ils se sont enfuis.
Selon les habitants, l'autorité des routes kenyanes, la Kura, a annoncé en août dernier qu'elle entrerait dans le bidonville par tous les moyens. En réponse, les résidents concernés ont présenté deux pétitions à la justice. Ils dénoncent les procédés de la Kura ainsi que du constructeur, l'entreprise Haechang Limited. Saïdi Lam est l'avocate de la communauté nubienne de Kibera, à l'origine de l'une des deux pétitions.
The construction of the road began without notification of the genuine affected people.
La construction de la route a commencé sans que les personnes réellement affectées n'en soient averties. Nous avons vu que dans leur dossier, la Kura assure qu'il y a eu consultation. Mais quand vous demandez aux habitants sur le terrain, ils ne sont au courant de rien. Ils ont peur de se réveiller un jour sans avoir un toit au-dessus de leur tête. C'est pour cela que nous avons dû nous précipiter au tribunal afin de garantir leurs intérêts, qu'ils nous disent dans quelle mesure la population va souffrir de cette construction.
Let us know to what extent people will suffer by the construction. We do not oppose.
Nous ne nous opposons pas à cette route, mais nous nous opposons à la manière dont les choses se passent. Vous ne pouvez pas vous réveiller tout d'un coup et dire que ces gens sont des squatteurs. Ces gens ont vécu là depuis plus de 100 ans. On ne peut pas les qualifier de squatteurs. Et de toute manière, même les squatteurs ont des droits.
En attendant la décision finale de la justice, la Haute Cour de Nairobi a émis deux injonctions temporaires interdisant la destruction de maisons et les évictions. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Pour les Nubiens de Kibera, ce combat a une importance spéciale. Ils sont les descendants de militaires soudanais, enrôlés par l'armée britannique et arrivés au Kenya au début du XXe siècle, dans le sillage des troupes anglaises. Ils affirment qu'avant l'indépendance, l'ancien colon leur a octroyé un terrain boisé à proximité de Nairobi. Ils l'ont appelé Kibera, forêt en nubien, mais ils n'ont jamais reçu de titre de propriété. Comme le reste des habitants du bidonville, ils vivent là de manière informelle. Aujourd'hui, explique Saïd Ilham, cette affaire est une occasion pour eux de revendiquer une nouvelle fois l'appartenance de Kibera.
Ils n'ont jamais connu d'autres terres, ni d'autres maisons. Les Nubiens ont leur héritage, leur culture, leurs habitudes et tout ce qu'ils possèdent à Kibera. alors que d'autres Kenyans peuvent décider de rentrer passer leurs vacances à Kisumu ou à Mombasa ou à Kakamega. Les Nubiens voient en Kibera une terre natale.
In Kakamega, the Nubians only know Kibera as their homeland.
Les Nubiens, du fait de leur ancienneté à Kibera, vivent principalement des loyers des structures de tôle qu'ils ont construites et qu'ils louent aux nouveaux arrivants d'autres communautés. Amina Birhan vit à Lindi, un des 13 villages de Kibera. Dans sa cour, trois jeunes filles cuisinent. Elle reçoit dans le petit salon de sa maison de terre.
Je suis née ici en 1949 et je n'ai jamais connu d'autre endroit. J'ai signé la pétition parce que mes maisons vont être détruites. Je m'en suis rendu compte lorsque ces jeunes sont venus marquer les maisons en chassant mes locataires. Ce terrain m'est très cher. Il me permet de nourrir ma famille, d'envoyer les enfants à l'école. Mais maintenant, à cause de cette route et de mes locataires qui sont partis, parfois je n'ai plus d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que ma famille va manger maintenant ? J'ai 10 enfants et je dois aussi m'occuper de ceux de mes cousins.
Amina affirme que l'autorité des routes kenyanes ne l'a prévenue de rien et qu'aucune indemnisation ne lui a été offerte. De son côté, la Coura confirme qu'aucune indemnisation n'est prévue pour qui n'a pas de titre de propriété. En 2013, le gouvernement kenyan avait pourtant engagé le processus, promettant aux Nubiens une centaine d'hectares dans Kibera. Mais à cause de tensions communautaires et politiques, les titres n'ont jamais été officiellement émis. En août 2016, l'adoption d'une nouvelle loi permettant d'attribuer des terrains à des communautés a réveillé l'espoir des Nubiens. Mohamed Aboubakar avance avec agilité dans les sentiers étroits de Kibera, entre les eaux usées et les tas d'ordures. Il montre les structures occupées par sa famille depuis des années.
Donc ça, c'est la maison de mon oncle et celle de mon grand-père. C'est là que j'ai grandi avant de construire ma propre maison.
Sa maison, au cœur du village nubien, est une des rares à avoir des murs de béton et une cour intérieure. Il espère toujours devenir propriétaire de son terrain. Mais selon Peter Bossiré, directeur du service juridique de la Coura, Kibera est aujourd'hui toujours un terrain public.
La loi sur les terrains communautaires n'a été adoptée que récemment. Elle encadre les processus à travers lesquels un terrain peut être considéré comme un terrain communautaire. Mais Kibera n'a pas complété ce processus. Cela soulève également différents enjeux. Ce terrain sera-t-il Nubien ou Luo ou Kamba ou Kikuyu ? On ne sait pas, parce que toutes ces communautés vivent là-bas. Et souvenez-vous que Nairobi s'est étendue. La ville est maintenant homogène, cosmopolite, à tel point que tout le monde s'est installé partout, ce qui rend très difficile de déterminer des terrains appartenant à des communautés. Mais l'élément important, c'est que c'est un terrain public. La totalité de Kibera, au moment où nous parlons, est un terrain public. Là-bas, il n'y a que des installations informelles. Elles sont informelles car personne n'a de titre de propriété.
Les habitants réclament tout de même une compensation. Il y a des précédents, disent-ils. En 2015, lors de la construction d'un chemin de fer dans Kibera, financé par la Banque mondiale, les familles affectées avaient été relogées dans des petits bâtiments construits le long des rails. Peter Niagesera a fondé l'école Egessa il y a 10 ans. C'est l'une des nombreuses écoles informelles de Kibera, née à cause de la surpopulation des établissements publics. Il n'y a en effet aucune école publique dans le bidonville en tant que telle, seulement 7 qui se trouvent à la périphérie. Pourtant, 40% de la population de Kibera a moins de 18 ans.
Ça, c'est la cafétéria. Et le week-end, on y fait aussi une messe. Là, vous voyez les tables où ils mangent le petit déjeuner et le déjeuner. Et là-bas, vous voyez la cuisine que j'arrange quand les enfants sont là. Et là, voilà, ce sont des salles de classe et encore des salles de classe. Et là, notre potager.
L'école Egessa de Peter Niagesera accueille chaque jour plus de 200 élèves. Elle est sur le chemin du Missing Link 12, comme 7 autres écoles informelles.
Ce type d'école est d'utilité publique pour les enfants de Kibera. La plupart d'entre eux profitent de leur passage à l'école pour manger. Car croyez-le ou non, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas de dîner. Alors tout ça, ça a effrayé les parents, les gardiens, les employés. Il y a des gens qui travaillent ici et qui dépendent de leur salaire à la fin du mois. Et puis ces écoles ont été financées par des ONG internationales. L'établissement dans lequel nous nous trouvons a été fondé par une ONG canadienne. De l'autre côté, il y a l'école de Makina, financée par l'ambassade de France. Et tous ces financements se font avec l'approbation de l'administration locale. Pourquoi ont-ils donné leur autorisation s'ils veulent finalement tout démolir ?
And eventually come to Timoris. These were our concerns, very, very serious concerns.
Des églises et plusieurs centres de santé doivent également être détruits. En tout, selon la Coura, 4 000 à 5 000 personnes seront affectées. Peter Niagesera a déposé sa pétition en février 2016, soutenue par plus d'un millier d'habitants de Kibera, de différentes communautés. Comme les Nubiens, il affirme que le tracé de la route a été modifié plusieurs fois afin d'éviter les propriétés de personnes influentes dans le bidonville.
The purpose for us going to court was to question.
Nous sommes allés devant la justice pour demander pourquoi cette route a été déviée. Et elle n'a pas été déviée seulement une fois, mais 4 fois. C'est lié à 2 choses. Un intérêt personnel de certains cartels qui ont des propriétés et qui ne veulent pas que leurs propriétés soient affectées par cette route. Et puis de 2, c'est une affaire politique.
À quelques kilomètres de là, dans un building du centre-ville de Nairobi, James Mochere, son avocat, montre les cartes sur lesquelles la défense s'appuie.
There are several maps concerning that road link.
Il y a plusieurs cartes pour cette route de liaison et les habitants ne savent pas laquelle le gouvernement utilise. La première carte date de 1987 et elle ne passe pas par l'école de mon client. La seconde carte date de 1989 et elle n'affecte pas mon client non plus. Puis la troisième carte, qui a été faite en 2013, n'affecte toujours pas mon client. Et puis, il y a une quatrième carte, celle que nous avons présentée à la Cour, qui n'est pas datée à ce que je sache, mais qui, selon mon client, est suivie par l'autorité des routes kenyanes pour construire cette route. Et donc, le problème principal, c'est que les habitants ne savent pas pourquoi les autres cartes datant de 1987, de 1989 et de 2013 n'ont pas été considérées lors du début de la construction.
Have not been considered in the construction of the road.
Selon les habitants, les premiers plans de la route passaient par des administrations locales et par des structures appartenant à de riches propriétaires vivant hors du bidonville et qui ont bâti leur fortune sur la location de centaines de maisons de tôle aux habitants les plus pauvres. La Coura cependant nie toute déviation et assure suivre un plan décidé en 2013 par le gouvernement kényan. Ce n'est pas la première fois que ce genre de problème se pose à Kibera. En 2009, aucun véhicule ne pouvait entrer dans le bidonville et les habitants empruntaient des sentiers de terre souvent couverts d'ordures. Mais aujourd'hui, plusieurs petites routes traversent le bidonville, transformant son économie et révélant chaque fois la question épineuse de la propriété des terrains. Douglas Namale connaît bien ces enjeux. Né dans le bidonville, il travaille aujourd'hui pour Map Kibera, la première plateforme qui a cartographié le bidonville grâce à une participation citoyenne.
Ces gens, pour la plupart, ils sont très riches, car ils se sont implantés il y a longtemps. Ils reçoivent d'importantes sommes d'argent avec les loyers, ils ne payent pas de taxes, et ils vivent en majorité en dehors de Kibera. Mais comme ces structures sont leur source de revenus, ils font toujours en sorte de repousser l'aboutissement des projets. Et puis Kibera n'est pas qu'un simple bidonville, car ses propriétaires ne sont globalement pas des citoyens ordinaires. Ce sont d'importants politiciens.
Avec l'élection présidentielle qui arrive en août, vous pensez que les choses vont évoluer ?
Je doute que les choses avancent pour le moment. Personne ne voudra y toucher, cela va être utilisé comme argument de campagne. Et Kibera est un bastion de l'opposition, c'est une zone très sensible politiquement. Donc vous allez voir que la construction va continuer en dehors de cette zone. Puis après les élections, c'est programmé. Les bulldozers vont venir et détruire toutes ces structures.
Bulldozers will come and clear those structures.
You've seen the plan.
Vous avez vu ce plan?
I've not seen it.
Je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça va se passer comme ça, car je l'ai constaté ailleurs.
Lors des violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya, qui avaient fait plus de 1000 morts, de violentes émeutes avaient éclaté dans le bidonville, largement acquis à l'opposition. Ces enjeux politiques et une population souvent réfractaire au changement rendent tout projet d'infrastructure très difficile dans le bidonville, explique Douglas Namale.
Aujourd'hui, il y a environ 5 projets de route en cours. De l'argent a été alloué pour ça, tout est prêt, mais il y a toujours le problème du départ des populations qui sont sur place. C'est un grand défi, parce qu'il y a là une contradiction entre les intérêts publics et les intérêts privés. Quand vous parlez aux habitants à Kibera, ils vous disent « nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'école ». Et ce sont des plaintes compréhensibles. Mais quand le gouvernement vient et dit « nous allons faire une école ici », ils disent « non, c'est notre terre ». Donc comment voulez-vous que le gouvernement fournisse de tels services si la population refuse de fournir l'espace pour ces services? Il y aura forcément des perdants pour que ce type d'infrastructure puisse un jour être construite à Kibera.
Pour le gouvernement, cette route fait partie d'un projet plus large visant à moderniser et à sécuriser la totalité du bidonville. Aujourd'hui, un terrain à Kibera vaut presque le même prix que dans les quartiers aisés aux alentours. Un espace stratégique pour les autorités comme pour le secteur privé. John Cheboy est le porte-parole de l'autorité des routes kenyanes.
Ce projet est très important. Nous avons déjà fait une route à Kibera et elle est vraiment extraordinaire. Le week-end, quand les véhicules se font plus rares, tous les enfants se retrouvent sur cette route. Les femmes aussi s'y rendent pour vendre leurs produits. Cette nouvelle route va aussi être d'une grande utilité. Quand le gouvernement a commencé à faire des routes à Kibera, beaucoup de choses ont changé. La sécurité a augmenté de 65%. Le coût de la vie a baissé de moitié. Avant, 20 litres d'eau coûtaient 50 centimes d'euros dans certaines sections de Kibera à cause du manque d'accessibilité. Mais maintenant, on a des camions remplis d'eau qui rentrent dans Kibera. Et la population peut acheter 20 litres à 5 centimes. Vous imaginez ? Passer de 50 à 5 centimes. Et puis, depuis la construction de routes à Kibera, vous n'entendez plus parler d'incendie à Kibera parce que les pompiers peuvent entrer dans le bidonville. Et le plus grand changement, ça a été l'électricité. Avant, il y avait des cartels qui vendaient de l'électricité illégalement. Mais maintenant, l'entreprise d'électricité nationale a pu rentrer dans Kibera et distribuer l'électricité aux habitants. Et lorsque cette route sera finie, il y aura un pont et cela permettra aux habitants de circuler très confortablement, même la nuit.
Est-ce qu'il y a d'autres routes prévues à Kibera ?
In Kibera.
Si nous arrivons à finir celle-là, alors la prochaine étape sera de voir comment le gouvernement va tenter de reconstruire certaines sections de Kibera pour les rendre plus modernes. Nous avons des plans pour améliorer la zone et faire en sorte que les habitants aient accès à un logement.
Déjà, depuis le toit de la mosquée Kambi Muru, on aperçoit des lotissements neufs qui encerclent le bidonville et de chaque côté, le chantier du Missing Link 12. Les bulldozers continuent leur travail en dehors de Kibera, bien qu'ils ne puissent pour l'instant entrer à l'intérieur. Les habitants, eux, attendent une décision de justice qui devrait être rendue dans le courant de l'année. Missing Link 12, une route au milieu du bidonville de Kibera, au Kenya. Un grand reportage de Laure Broulard, réalisation Ludivine Amado. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais.